Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse au chapitre 22. On va lire les versets 1 à 5. Apocalypse 22, versets 1 à 5. Je vais le lire dans la version Osterval. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, était un arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin de lampes ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Alors, plusieurs auteurs croient que plusieurs commentateurs du livre de l'Apocalypse s'accordent pour voir dans les cinq premiers versets du chapitre 22 une conclusion ou une sorte de sommaire de tout le chapitre 21. Alors aujourd'hui, on va regarder la félicité, le titre que j'ai donné au sermon d'aujourd'hui, c'est « La félicité des élus dans la Jérusalem céleste ». Alors, dans le chapitre 21, ce que nous avions admiré, la Nouvelle Jérusalem en des termes généraux, versets 1 à 8. Le tout était suivi de l'apparence de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire de sa gloire, de sa forme, de ses dimensions, et aussi des matériaux qui la composent, versets 9 à 21. Et le tout se terminait par une description de son intérieur et aussi de ses habitants, les versets 22 à 27. Ce qui est important à saisir si on s'accorde avec les auteurs qui disent que les cinq premiers versets du chapitre 22 sont un résumé du chapitre 21, alors il faut absolument identifier qui est la Nouvelle Jérusalem. Alors, on l'avait regardé dans nos études précédentes. L'identité de la Nouvelle Jérusalem avait été clairement identifiée par le verset 9 du chapitre 21, qui nous disait que la Nouvelle... On va le relire, chapitre 21, verset 9. Alors, l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes, pleine des sept, dit, viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'agneau. Alors, comme il y a eu plusieurs interprétations quant à la signification du chapitre 21, quant à l'identité et aussi toutes les choses reliées à la Nouvelle Jérusalem, c'est important de bien l'identifier. Et ce qui nous aide beaucoup, c'est que le verset 9 l'avait fait pour nous. Alors, on n'a pas besoin de se poser de questions à ce moment-là. On sait que l'identité de la Nouvelle Jérusalem, c'est vraiment l'Église que Jésus-Christ lui-même a bâtie. Et il faut réaliser que c'est l'Église telle qu'on peut comprendre qu'elle est terminée maintenant, elle est finie. On sait que l'Église est composée de pierres vivantes, comme on lit dans plusieurs textes du Nouveau Testament. Et les pierres vivantes, à partir du moment où le Seigneur va avoir ajouté sa dernière pierre vivante, l'Église sera complétée. Et à ce moment-là, c'est important de saisir que c'est celle qui descend du ciel et qu'on identifie comme la nouvelle Église, comme la nouvelle Jérusalem. Il faut comprendre que cette nouvelle Jérusalem, c'est l'Église qui est complètement finie, complétée. Elle est aussi purifiée, sanctifiée et glorifiée. Maintenant, sa sécurité et son bonheur sont absolus et éternels. Alors, si on voudrait définir le mot félicité, on pourrait définir cela comme étant un bonheur parfait, permanent et complet, un contentement intérieur, une joie très intense, une euphorie et même une extase. Alors, tous ces concepts sont inclus dans le concept, dans l'idée de la félicité. Alors, le Seigneur a voulu, pour nous décrire dans ce résumé des cinq premiers versets, a voulu utiliser l'image du paradis terrestre qu'on retrouve dans le livre de la Genèse pour nous faire comprendre que l'Éden dont l'homme a joui avant sa chute est non seulement pleinement retrouvé, mais infiniment rehaussé à cause de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ pour ses élus. Alors, c'est important de saisir cette idée-là. Ici, lorsque l'homme, avant sa chute, était dans le paradis, bien sûr, il jouissait de beaucoup de privilèges et d'avantages et de bénédictions de la part de Dieu, mais il l'a perdu à cause de la chute, à cause du péché. Maintenant, dans le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, l'homme non seulement a retrouvé ce qu'il avait perdu, mais ce qu'il a retrouvé est rehaussé et plus grand que ce qu'il avait avant la chute, lorsqu'il était dans son innocence. Alors, on va regarder un petit peu les idées qu'on avait parlé tantôt. Alors, la première idée qu'on va regarder, c'est que la Jérusalem céleste, autrement dit l'Église, qu'on utilise l'image d'une cité pour la décrire, on revient à l'idée du paradis du livre de l'Apocalypse. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se développe dans les versets 1 et 2. D'abord, on va lire les versets 1 et 2. « Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair, comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, était un arbre de vie, portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. » Alors, on voit que juste l'idée du fleuve d'eau vive, l'arbre de vie, ce sont tous des concepts qu'on retrouve dans le livre de la Genèse. Alors, le Seigneur a utilisé dans les versets 1 et 2 des concepts qui nous sont familiers, qui sont présents dans le livre de la Genèse. Par exemple, le fleuve d'eau vive, la présence divine dans le jardin, l'arbre de vie et aussi les feuilles guérissantes de l'arbre de vie. Alors, l'idée fondamentale, c'est que ce que l'homme a perdu par le premier Adam, à cause du péché originel et de ses terribles conséquences, on se souvient que ces terribles conséquences étaient la mort physique, la mort spirituelle, donc toute perte de privilèges avec Dieu lui-même, et aussi la mort éternelle, advenant qu'un homme meurt dans cet état-là, sans avoir reçu la grâce et sans être réconcilié avec Dieu, il allait dans l'enfer éternel pour l'éternité. Alors, à cause du péché originel du premier Adam, et c'est, donc les conséquences ont suivi, et ça a été perdu, mais retrouvé, mais pleinement et glorieusement rehaussé, donc amélioré par le second Adam, qui est Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous parle du second Adam comme étant Jésus-Christ. Alors, ceux qui étaient dans le premier Adam ont tout perdu. Ceux qui étaient dans le second Adam, non seulement ont tout récupéré, mais ont reçu... une amélioration de ce qu'ils avaient avant la chute. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, on a un fleuve d'eau vive. Bien sûr, à plusieurs endroits des Écritures, l'eau vive est un symbole du Saint-Esprit. Alors, un fleuve d'eau vive, bien entendu, comblera les besoins en eau spirituelle des élus. On sait qu'à l'époque de l'Ancien Testament, dans les villes, les villes, le besoin en eau en général pour les hommes a toujours été très, très grande importance, et particulièrement dans les villes qui étaient sujettes à recevoir des attaques. Et alors, bien entendu, il fallait s'assurer que l'intérieur de la ville ait suffisamment d'eau pour pouvoir survivre à des attaques. Alors, bien entendu, ici, on parle d'un fleuve d'eau vive. À l'intérieur même de la ville, qui est l'Église, on parle qu'un fleuve d'eau vive, on pense que c'est vraiment un symbole du Saint-Esprit. Donc, la présence de Dieu et de l'agneau seront garanties de façon éternelle et irrévocable. Alors, la présence de Dieu dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, était là avant la chute. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est que, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, les élus vont pouvoir profiter durant toute l'éternité de la présence de Dieu et de l'agneau. Et tout cela va être garanti éternellement. Dans le livre de la Genèse, la présence de Dieu était en quelque sorte soumise à une probation. Et maintenant, dans le ciel, ces choses, la probation, il n'y en a pas. Et donc, elle est garantie, la présence de Dieu est non seulement garantie pour l'éternité, mais c'est irrévocable. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas revenir. Alors, il n'y aura pas de période de probation. Bien important, ce qu'il y avait dans le livre de la Genèse, avant la chute. La probation, ça voulait dire que le Seigneur avait soumis, il les avait soumis à un test qu'ils n'ont pas réussi. Et autre chose qu'on se doit de remarquer dans le livre de la Genèse, c'est qu'il y avait dans le livre de la Genèse l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on voit que dans le texte qu'on lit, dans les 5 premiers versets du chapitre 22, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas là. Alors, ce qui arrive, c'est que la paix, le bonheur et la sécurité seront expérimentés de tous. La vie infiniment diversifiée de Dieu jaillira de façon permanente. La gloire de Dieu se reflétera dans tous ses élus. L'adoration sera permanente et apportera un bonheur indescriptible et une joie ineffable. Alors, on peut aller examiner le chapitre 2 du livre de la Genèse, les versets 8 à 10, où on nous parle du premier Adam dans le paradis terrestre. Alors, on lit le passage. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait et formait quatre bras. Alors, ce qui est intéressant de faire le parallèle, c'est le premier Adam et de faire le parallèle avec le second Adam. Le second Adam, il faut aller dans le Nouveau Testament, dans la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 15, au verset 45 à 49, là où on nous parle de Jésus-Christ comme étant le second Adam. Alors, lui, il nous garantit le paradis céleste. Alors, quand on parle du premier Adam, c'était le paradis terrestre. Maintenant, on parle, à cause du second Adam, qui est Jésus-Christ, nous garantit le paradis céleste. Alors, on lit à partir du verset 45, dans le chapitre 1, chapitre 15. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme, étant de la terre, est terrestre. Et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis ceci, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Ce qui est important de saisir aussi, c'est que cette idée de retrouver le paradis terrestre du livre de la Genèse avant la chute avait été aussi prophétisée. Alors, on voit le côté merveilleux des Écritures, où tout se tient, où tout est parfait. Alors, l'Ancien Testament avait prophétisé concernant les choses qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Alors, Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 47, on va lire les versets 1 et 2, et aussi les versets 8 et 9. Et on se souvient qu'Ézéchiel 47, c'est vraiment la vision du temple restauré qui a été prophétisé. Et à l'intérieur de ça, il y avait une eau qui assainit et qui vivifie. Alors on lit les versets 1 et 2, ensuite on lira les versets 8 et 9. Versets 1 et 2 du chapitre 47 d'Ézéchiel. Ensuite, il me ramena vers l'entrée de la maison. Et voici, des eaux sortaient sous le seuil de la maison, du côté de l'Orient. Car la façade de la maison regardait l'Orient, et ces eaux descendaient de dessous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me fit sortir par le chemin de la porte du nord, et il me fit tourner par le chemin du dehors, jusqu'à la porte extérieure, un chemin qui regardait l'Orient. Et voici, les eaux coulaient du côté droit. Maintenant, le verset 8 et 9. Il me dit, ces eaux vont se rendre dans le district oriental. Elles descendront dans la plaine et entreront dans la mer. Et lorsqu'elles se seront jetées dans la mer, les eaux de la mer en deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une forte grande quantité de poissons. Et là où ces eaux arriveront, les eaux deviendront saines, et tout vivra où arrivera ce torrent. Un passage qu'on pourrait étudier beaucoup plus en profondeur, mais un autre passage qui nous parle un peu du même phénomène, des eaux et du fleuve. Alors, dans le psaume 46, verset 5. Psaume 46, verset 5, se lit comme suit. Le fleuve et ses canaux réjouissent la cité de Dieu, le lieu saint des demeures du Très-Haut. Alors, on a vraiment l'idée que c'est des choses qui avaient été prophétisées dans l'Ancien Testament. Il y aurait beaucoup d'autres passages avec lesquels on pourrait relier toutes ces choses, mais on ne peut pas aller plus en profondeur, sinon ça serait vraiment un sermon qui serait vraiment beaucoup plus long. Alors, on voit ici que ce rehaussement-là de la situation où était le premier Adam dans le paradis terrestre, s'il a été rehaussé, il faut comprendre que tout cela est christocentrique, donc centré sur la personne et sur l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut remarquer que la source du fleuve coulant à partir du trône se trouve en Dieu lui-même et en Jésus-Christ, l'agneau, qui a ouvert par son sacrifice la fontaine de la vie à son peuple. On peut voir dans le psaume 36, verset 9, ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au fleuve de tes délices. Une expression que je trouve vraiment merveilleuse ici. Un fleuve de délices. Donc, on parle de l'abondance de la maison de Dieu. Et on en, il dit, tu les abreuves. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de boire. Au fleuve de tes délices. Donc, les délices, vraiment, sont au pluriel. Et ils sont inimaginables, sont ineffables, sont difficiles à saisir pour nous. Mais on en parle comme d'un fleuve. Alors, un fleuve, c'est énormément d'eau. Alors, le fleuve, bien entendu, symbolise la vie abondante. Et cette vie abondante-là découle de la communion abondante et impérissable et ininterrompue avec Dieu et avec l'agneau. Donc, quand l'Église va être dans son état terminé, sanctifié, purifié et glorifié, il va s'installer une communion entre les élus de Dieu et Dieu lui-même et l'agneau. Et bien important de saisir que les Écritures utilisent des mots pour nous parler de son abondance, de son impérissabilité, donc quelque chose qui ne se tarira pas, et ça va être ininterrompu, donc ça n'arrêtera jamais. Quand on regarde un fleuve couler, ça coule en constance, et ça va être la même chose pour l'Église de Dieu va être rendue en communion permanente avec Dieu. Il faut se rappeler que dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même a utilisé l'image de l'eau pour représenter la nouvelle vie ou encore le Saint-Esprit. On va regarder deux versets du Nouveau Testament qui nous donnent cette idée-là. Donc, on a le passage de Jean, chapitre 4, versets 13 et 14. Alors, on se souvient que c'est dans le contexte que Jésus rencontrait la femme au puits. Alors, dans le verset 13, « Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Donc, le Seigneur vient faire ici un parallèle, une comparaison entre l'eau physique et l'eau spirituelle qui nous dit que celui qui va boire de l'eau physique va avoir encore soif, mais que celui qui va boire de l'eau spirituelle que Dieu va lui donner, puis le Seigneur utilise l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. On a aussi un autre passage dans le même évangile, l'évangile de Jean, au chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » Quand on le verset 38, il nous parle « Celui qui croit en moi ». Alors, quand on parle de l'Église qui descend comme la Nouvelle Jérusalem, il dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il nous dit ici, il identifie qu'est-ce que c'est l'eau vive. C'est vraiment, il dit cela de l'Esprit. Alors, c'est vraiment l'image du Saint-Esprit. Et autre idée qui est importante à se rappeler, c'est que ce rehaussement-là, cette amélioration par rapport à la situation de Genèse 3 avant la chute, il faut voir ici que cette affaire-là, ça va être quelque chose d'intarissable. Donc, ça va être composé de réalités éternelles qui sont vraiment au-delà de toute compréhension et de toute description. On va regarder maintenant le deuxième point qui est la Jérusalem céleste, une cité divinement gouvernée. Alors, quand on relit le verset 3, ça nous dit « Il n'y aura plus aucun anathème et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle et ses serviteurs le serviront. » Alors, si on veut comprendre ici l'idée de aucun anathème ou aucune malédiction, il faut retourner dans le livre de la Genèse pour comprendre quelles étaient les malédictions que le Seigneur avait prononcées après la chute. Alors, on va aller regarder au chapitre 3 de la Genèse, les versets 14 à 24, qui vont nous rappeler les malédictions prononcées par Dieu après la chute. Alors l'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton ami, vers ton mari, et il dominera sur toi. » Et il dit à Adam, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Or, Adam appela sa femme Ève, qui veut dire vie, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et qu'il ne prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange une vive à toujours. » Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Quand on regarde on analyse un peu, très rapidement, l'ensemble du passage. Il y a la malédiction au serpent, où il lui dit « tu seras maudit ». À la femme, il lui dit que les douleurs de sa grossesse vont augmenter et que ses désirs vont se tourner vers son mari, mais qu'il va dominer sur elle. À Adam, il lui a dit qu'à cause qu'il obéit à sa femme, le sol sera maudit et que maintenant, il aura le sol va produire des épines et des chardons. Alors, il lui dit qu'il va manger le pain à la sueur de son front. L'Éternel le fit sortir, il l'a chassé. Très important de voir que c'est l'ensemble des malédictions que le Seigneur a données sur Adam et Ève qui avaient chuté. Lorsqu'on regarde l'ensemble de ce passage-là, comment pouvons-nous saisir toute la douleur qu'il y a de contenu dans ces malédictions pour de nombreux siècles? Si on regarde la situation à partir du début et qu'on regarde l'ensemble des choses qui sont mentionnées ici, comment peut-on imaginer l'ensemble des malheurs, l'ensemble des souffrances que l'humanité va avoir à traverser pour des siècles et des siècles? Alors le Seigneur, à partir du moment où l'Église va être terminée, va être au ciel, le Seigneur va gouverner son peuple d'un amour parfait. Pour nous qui vivons sur la terre, être gouverné politiquement d'un amour parfait, on n'a jamais connu ça. Parce que, à cause du péché qu'il y a dans le peuple, premièrement, et aussi chez les dirigeants, toute gouverne politique de ce bas monde sera toujours imparfaite, sera toujours teintée du péché et des malheurs qu'il amène avec lui. Mais ici, le Seigneur veut nous rappeler que lui-même et l'agneau vont gouverner son peuple d'un amour parfait. Difficile pour nous de saisir tout ce que ces choses-là peuvent impliquer. Non seulement il sera parfait, mais il sera surabondant. Il sera unifiant aussi. Les gens qui vont être au ciel vont être unis. Il va être exaltant, dans le sens que les gens vont de plus en plus et de mieux en mieux découvrir la grandeur infinie et les perfections infinies à la fois de Dieu lui-même et de Jésus-Christ. Et tout cela va être inépuisable. Autrement dit, on ne découvrira, on n'ira jamais jusqu'au fond. On ne comprendra jamais exhaustivement toute l'ampleur, tout l'amour, toutes les choses qui concernent Dieu, et on va être gouverné par Christ et aussi par Dieu le Père, et bien sûr le Saint-Esprit. Alors, chaque découverte de chacune des perfections de la personne de Dieu et de la personne de Christ et du Saint-Esprit nous comblera et nous conduira vers une nouvelle découverte encore plus glorieuse. Quand on parle, tiens, on va découvrir quelque chose et ça va être pour l'éternité, de découverte en découverte et de découverte plus éclairante l'une que l'autre, et ceci de façon incessant. Alors, ça va être vraiment une suite ininterrompue d'admiration sans borne et d'adoration. Alors, le gouvernement de Dieu nous comblera au-delà de toute description, puisque Dieu est infini dans chacun de ses attributs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on commence à comprendre cela. Que chacun de ce qui est décrit dans les livres, dans les Saintes Écritures concernant qui est Dieu à cause de ses attributs dans son être, jamais nous ne comprendrons jamais exhaustivement et pleinement Dieu. Parce que chacun de ses attributs est infini. L'éternité elle-même ne suffira pas pour qu'on puisse découvrir toutes ces choses, et ça va être extraordinaire. Alors, la découverte ne sera jamais vraiment complète ni exhaustive. On va regarder maintenant le troisième point, la Jérusalem céleste, donc l'Église, une cité éternellement illuminée, versets 4 et 5. Donc, on parle de lumière, là. Versets 4 et 5. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront point besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur lui-même, le Seigneur Dieu, les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Une idée très importante qui est véhiculée par ce passage-là, C'est vraiment l'idée que l'Église, les membres de l'Église Trion, l'Église qui est dans le ciel, va passer, il va y avoir un passage qui va se faire, là. Et le passage, ça va être de la marche par la foi à celle par la vue. Alors, on sait que sur la terre, tant qu'il va rester des chrétiens sur la terre, les croyants doivent vivre et marcher par la foi dans cette vallée de larmes. Par exemple, si on va dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 6 et 7, nous lisons « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que pendant que nous habitons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. » Un autre passage de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12, qui nous parle encore de ce qu'on est capable de voir comme croyant sur les choses de Dieu, sur cette terre. Alors, 1 Corinthiens, 1er épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. « Maintenant, nous voyons par un miroir, obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Alors, quand on regarde un petit peu les commentaires qui nous disent sur le 1 Corinthiens 13, verset 12, ça nous dit qu'à l'époque, il y avait des miroirs. Les miroirs n'étaient pas des miroirs comme aujourd'hui, c'était des miroirs faits de métal. Alors, c'était des surfaces qui reflétaient, mais qui se reflétaient très grossièrement. Alors, il utilise l'image, il dit « Maintenant, nous voyons par un miroir ». Bien sûr, le miroir dont on parle de 1 Corinthiens 13, ce n'est pas les miroirs modernes, c'est les miroirs qu'il y avait à cette époque-là. Alors, ça permettait de voir, mais il y avait quand même quelque chose d'obscur. Et il veut prendre cette image-là pour parler qu'à cause de notre situation actuelle, tout ce qu'on voit de Dieu est vraiment un peu... n'est pas aussi clair que ça va l'être lorsque nous serons avec Dieu dans le paradis. Important de voir le passage ici de la marche chrétienne par la foi à la marche chrétienne par la vue. Alors, il y a vraiment un important changement ici. Il faut se rappeler que si on retourne dans l'Ancien Testament, au chapitre 33 du livre de l'Exode, versets 18 à 23, l'idée qu'on ne peut pas voir Dieu était clairement exprimée. Alors ici, on va lire les chapitres 18, c'est-à-dire les versets 18 au verset 23 du chapitre 33 de l'Exode. « Et Moïse dit, je te prie, « Fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Et il dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit aussi, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Et il arrivera que quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'y passe. Et je retirerai ma main. Tu me verras par derrière, mais ma face ne se voit point. » Alors, c'est important de réaliser ici le fameux cantique d'Augustus Toplady, quand il chante « In the cleft of the rock ». Vraiment, c'est dans le creux du rocher. Ici, quand on vous lit dans le verset 22, dans le creux du rocher, bien sûr, le rocher, c'est Christ. Il dit qu'il pour, il dit, il arrivera quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Autrement dit, en Christ. Alors, c'est très intéressant de faire les liens entre ce qui est dit dans l'Ancien Testament et ce qui est réalisé là-dedans à cause de Christ. Alors, on passe d'un système où le croyant devait vivre par la foi à un système où maintenant, il va avoir l'immense privilège de voir. C'est plus par la foi maintenant, c'est par la vision, par la vue. Alors, il faut se souvenir aussi que ces choses-là, c'est des choses qui avaient été prophétisées aussi dans l'Ancien Testament. On peut regarder, par exemple, Ésaïe. Il y aura beaucoup de passages, mais on ne peut pas aller tous les voir. On va en regarder deux. Ésaïe, chapitre 33, verset 17. « Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté. Ils verront la terre éloignée. » Et on a aussi le psaume 17, verset 15. « Mais moi, dans la justice, je verrai ta face, je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai. » Alors, on a vraiment l'idée de l'élimination de la connaissance. On va avoir une connaissance de Dieu qui va être intime, qui va être intensifiée et va être accrue, plus grande que jamais. J'ai trouvé une remarque du célèbre pasteur et prédicateur Charles Spurgeon qui a déclaré que nous en saurions plus sur le Christ en 5 minutes dans le ciel que nous en aurons acquis durant toute notre vie sur la terre parce que Christ est la lumière du ciel. Alors, c'est une citation que j'ai trouvée dans le e-book Revelation du pasteur Joel Bickey où il mentionne ce fait sur Charles Spurgeon que j'ai trouvé très intéressant. Qu'on en saurait plus après 5 minutes dans le ciel qu'on en a acquis durant toute notre vie. Imaginez. je crois que c'est une grande vérité. Alors, voir la face de Dieu et de l'agneau sera le comble de notre bonheur et de notre joie éternel. Le pasteur Paulin Bédard a fait aussi une étude sur l'Apocalypse. Alors, il fait ici une remarque que je trouve essentielle et importante. Alors, je vous la lis. Cependant, voir la face de Dieu ne signifie pas que la distinction entre Dieu et l'homme va disparaître. La différence entre le Créateur et la créature ne sera pas ôtée par une fusion des natures divines et humaines. Différentes formes de mysticisme ont imaginé que c'était là un but qui pouvait être atteint, mais leurs idées mènent à un panthéisme où toutes choses deviennent Dieu. Alors, je vous ai mis la remarque ceux qui ont les notes, vous pourrez aller vérifier l'ensemble, tout l'article de Paulin Bédard. C'est important, ce qu'il nous dit, c'est que à cause du fait qu'on va être au ciel, la distinction entre Dieu et l'homme, ça ne sera jamais enlevé. Dieu va toujours rester le Créateur et nous, on restera toujours une créature. Il n'y a pas une fusion des deux natures. La nature divine demeure divine et celle humaine va rester humaine. Alors, quand les mystiques des différents dans l'histoire de l'Église qui ont imaginé que ce but-là pouvait être atteint, il nous dit que ces idées-là, ça mène à un panthéisme, donc à confondre la création avec le Créateur. Quand on dit un panthéisme, c'est voir Dieu dans toute chose. Voir Dieu dans un arbre, voir Dieu dans une rivière, voir Dieu dans les astres, voir Dieu dans les fleurs, dans les animaux. Il y a une part de vérité là-dedans, mais jamais on ne peut confondre la création de Dieu avec le Créateur. Jamais on ne peut faire ça. Quand on fait ça, on est dans le nouvel âge, on est dans le mensonge. Alors, l'autre idée qui est mentionnée, c'est celle qu'on va être éclairé par Dieu et aussi on va régner avec lui, dans le verset 5. Alors, la lumière divine fera qu'il n'y aura plus aucune injustice, aucune menace, aucun danger, aucune malédiction et aucun péché. Il ne restera plus aucune trace de ténèbres, de noirceur. Le Seigneur fera briller sa face sur son peuple. Alors on peut vraiment dire ici que la fameuse bénédiction aaronique à Daraon, de Nombre 6, versets 25 et 26, sera complètement, entièrement et absolument accomplie. Ça nous dit, Nombre 6, versets 25 et 26, l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Alors, trois applications à partir du texte qu'on étudie aujourd'hui. Première application, rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, car grâce à lui, nous vivrons notre éternité dans une condition supérieure à celle du premier Adam dans le paradis terrestre avant sa chute. Notre condition sera plus glorieuse, plus sécuritaire et infiniment plus bénie. Deuxième application, quelle joie et quelle assurance que d'être gouverné par un Dieu si puissant, si gracieux et si merveilleux. Troisième application, Dieu est lumière. Fini les ténèbres, fini le mal sous toutes ses formes et fini l'injustice. Nous adorerons Dieu pour l'éternité et nous trouverons en lui notre paix et notre bonheur. Prions le Seigneur de nous purifier et de nous sanctifier pour sa gloire. Que notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit infiniment loué, exalté et adoré à tout jamais. Amen.